Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
I want to hear you saying, stop war in Ukraine.
Le président ukrainien poursuit ses appels à l'Occident pour une aide à la défense aérienne. Seul moyen de contrer les attaques russes, la guerre et ses centaines de milliers de blessés parmi la population militaire et civile. Des victimes d'amputations, mais aussi de viols, d'enlèvements ou de tortures. Dans l'ouest du pays, à Lviv, l'hôpital voit affluer toutes ces victimes sans avoir forcément l'expérience. Dans son service, le professeur de psychiatrie Oleh Bereziuk tente de répondre à la demande. Il travaille désormais avec le centre Primo Levi, spécialisé à Paris dans la prise en charge des victimes de torture. Au mois d'octobre, une session de formation a réuni les deux équipes. C'est le reportage de Juliette Garbrand.
Pour le courage que vous avez eu de venir nous rendre visite.
Dans la grande salle du centre Primo Levi, l'heure est aux retrouvailles. Une partie des équipes se sont déjà rencontrées en Pologne. Le psychiatre Oleh Bereziuk, courte barbe et carrure sportive, offre quelques cadeaux rapportés d'Ukraine. La directrice de l'association de soutien aux victimes de torture, Hélène Bonvalo, lance la séance de travail.
Dans votre projet de création de ce centre dédié aux...
Cette coopération avec l'hôpital de Lviv porte ses fruits. Mais le 24 février 2022, Oleh Bereziuk s'était senti très démuni.
Au début de la guerre, je redoutais que quelqu'un frappe à la porte en disant « J'ai besoin d'aide, j'ai été en captivité, j'ai souffert de torture ». Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que la rencontre avec le centre Primo Levi a été une bénédiction, si je puis dire. Ils nous ont aidés à comprendre ce qu'est le vécu de la torture, ce mal indicible que le patient porte en lui.
Le service du docteur Bereziuk est ouvert à toutes les victimes de stress post-traumatique, direct ou indirect, par exemple des mères ou des épouses qui ont cherché leurs proches pendant des mois. Il a aussi mis en place une thérapie de groupe pour les enfants et les adolescents. Mais dans un pays où, sous le régime soviétique, on envoyait les opposants politiques à l'asile, la tâche n'est pas facile.
En Ukraine, il y a encore beaucoup de préjugés sur la psychiatrie et la psychothérapie. Mais il se passe une chose très intéressante. Les gens qui viennent nous voir deviennent nos ambassadeurs. C'est très émouvant quand quelqu'un nous dit « Je vous amène deux de mes amis, ils sont dans le déni et ne voulaient pas venir, alors je les ai accompagnés. » Et c'est très efficace. On a remarqué que le temps de soins était beaucoup plus court parce qu'ils avaient confiance dans leurs amis. Les gens commencent à comprendre que ces soins psy sont utiles et améliorent leur qualité de vie.
Le déni est fréquent, explique le médecin, qui évoque cette jeune fille capturée plusieurs jours par des soldats russes qui refusent toujours de dire ce qui lui est arrivé. Ou ce soldat torturé pendant 4 mois.
Il a bénéficié d'un échange de prisonniers. Il est resté enfermé presque 1 an chez lui. Il a détruit la moitié de la maison dans des accès de violence. Et sa femme souffrait beaucoup, elle aussi. Et un jour, elle a trouvé notre centre et il a accepté de venir. Depuis presque 1 an, il souffrait de cauchemars. Toutes les nuits, il était épuisé. Il est venu et en 6 semaines, 90% de ses symptômes ont disparu. C'est très rapide. Mais je me suis aperçu qu'il ne sortait jamais, qu'il restait enfermé. Alors, un samedi, je lui ai dit « Vous ne connaissez pas Lviv ? Venez, on va se promener. » C'est un jour où il y a beaucoup d'animation dans la ville. Il était sensible au bruit, aux gens. Il m'a dit « Je vais encore mal dormir après ça. » Et le lendemain, il m'a confié qu'il n'avait jamais si bien dormi. C'est de la thérapie d'exposition in vivo très efficace pour les victimes de traumatismes qui sont dans l'évitement.
Quand on interroge le docteur Oleh Bereziuk sur son engagement de tous les instants, il préfère mettre en avant le travail d'équipe de l'hôpital et la nécessité de tenir pour préserver la liberté de l'Ukraine malgré la fatigue.
C'est épuisant quand vous travaillez tous les jours 12 ou 13 heures. Ce qui nous aide, c'est d'échanger. On a 2 réunions d'équipe par semaine. Même le fait de vous parler là, ça aide, car quand je vous racontais le cas de la jeune fille capturée par des soldats russes tout à l'heure, j'avais encore la chair de poule.
En 1 an, entre les victimes de stress post-traumatique, de traumas crâniens et les habitants de Lviv avec leur pathologie courante, le service du psychiatre a donné plus de 6500 consultations. L'équipe comptait 5 soignants au début du conflit. Ils sont 30 à présent, dont la moitié sont encore en formation. Mais il y a beaucoup de turnover. Et la santé des soignants est une question essentielle. Quand Béatrice Patsalides-Hoffmann, psychologue du centre Primo Levi, a rencontré l'équipe du docteur Ole Bereziouk au printemps dernier, elle a été surprise.
Étonnamment, je trouvais qu'il n'allait pas trop mal. Il y avait certaines personnes qui étaient plus affectées que d'autres, mais dans l'ensemble, je m'attendais à ce qu'ils aillent pire, en fait. Ils sont dans un esprit vraiment de résistance. Et j'appelle ça précisément résistance et pas résilience, parce que la résistance est une attitude active contre tout le mal et toutes les horreurs qui viennent faire intrusion quelque part dans l'hôpital tous les jours. Mais bon, je pense pas qu'il faut embellir la situation. Je pense que avec le temps, cette équipe est très éprouvée. C'est clair.
L'usure se fait sentir, confirme Oleg Bereziouk.
Cet automne, on a constaté que les deux tiers de notre équipe de psy étaient malades, une véritable épidémie. C'est le signe de stress post-traumatique secondaire. Le système immunitaire est affaibli par l'exposition continue au stress dans le travail. On organise des marches dans les montagnes voisines, des séances de méditation. Ça fonctionne très bien pour ces troubles. Mais il faut du temps pour ça.
Or, le temps il faut soigner. Selon l'OMS, la guerre affectera la santé mentale de près de 10 millions d'Ukrainiens. C'est un enjeu de société majeur.
Imaginons que la guerre se termine demain. Les gens resteront affectés par leurs blessures visibles et invisibles pendant plusieurs dizaines d'années. Et les recherches l'ont montré. Plus on intervient tôt, moins les séquelles sont graves. Il faut aider les gens, sinon on voit apparaître des addictions, des troubles psychiatriques, des dépressions, des anxiétés qui sont des conséquences de la blessure psychique.
Il faut passer à la vitesse supérieure, explique Ole Bereziouk. Il espère que des centres comme le sien verront le jour partout dans le pays. Mais pour cela, il faut des moyens. À Lviv, le service de psychiatrie fonctionne en partie grâce à un financement de la Croix-Rouge canadienne. Sur le front de la santé mentale, comme sur le front militaire, la solidarité est essentielle.
Сьогоденні прихатка єдино мусим віддержать. Ле буду ціла, далеко треба в тому витривать. А й кеби сам падал на дно, так вже будеш горда. Лебо віже сапоставим, укажем їм хрела. Є то і по о тому, що вжди.
Place des Libérateurs, c'est ainsi que se nomme la place centrale de la deuxième ville de Slovaquie, Košice. Hommage aujourd'hui plus que décalé aux soldats soviétiques qui ont délivré le pays des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. En pleine guerre en Ukraine, après une lecture critique des décennies où le pays a été sous la coupe du grand frère soviétique, sans parler de l'envoi des chars après le printemps de Prague. Bref, de nombreux habitants veulent rebaptiser la place, mais comment ? De retour de Košice, les explications d'Alexis Rosenzweig.
Quand on arrive na Mestie Osloboditelov, la place des libérateurs au centre de Košice, l'une des premières choses que l'on remarque, c'est l'imposant monument élevé à la gloire de l'armée rouge et des soldats tombés pour libérer la ville des nazis, avec marteaux et faucilles en mauvais état. Patrimoine historique et symboliquement important pour certains, ce monument avait été peint aux couleurs ukrainiennes par d'autres, peu après février 2022 et l'invasion par la Russie de l'Ukraine, dont la frontière n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Depuis cette invasion de l'année dernière, les initiateurs d'une pétition rappellent que c'est cette même armée rouge qui a envahi Košice en 1968 et qu'il est temps d'en finir une fois pour toutes avec ce nom de libérateur pour cette place dont le nom devrait redevenir place des légionnaires, comme elle s'appelait avant-guerre, en hommage aux légionnaires tchécoslovaques qui ont libéré, avec le général français Edmond Hénoch, la ville de Košice en 1919. D'ailleurs, l'une des brasseries du coin s'appelle tout simplement « Aux légionnaires ». Mais l'idée ne plaît pas à tout le monde. Le problème est que cette bataille de 1919 a été remportée par les légionnaires contre les bolcheviks hongrois et qu'une importante minorité magyar existe toujours en Slovaquie. Et à Košice, le sujet est toujours sensible. Les membres de cette minorité auraient, eux, une préférence pour le nom « Place Elisabeth » « Alžbetino na mestie » en référence à Sicile impératrice. Mais d'autres options ont été également envisagées. Des historiens de l'Académie des sciences ont proposé « Place de la citadelle ». D'autres souhaitent une place de la liberté. Mais pour beaucoup d'habitants de Košice, Comme il s'agit de la seule vraie place de la ville, l'endroit porte et portera toujours le sobre nom de Namestier, place tout court et sans précision, pour ne froisser personne.
Les répercussions en Europe de la guerre qui oppose Israël et le Hamas, partout sur le continent, des manifestations se sont succédées pour dénoncer les bombardements massifs sur Gaza, l'attaque du Hamas, la montée de l'antisémitisme ou encore pour appeler à la paix. Mais à chaque fois, ces manifestations ont donné lieu à des débats. C'est l'œil européen cette semaine de Franceline Beretti.
Ces dernières semaines, il y a eu tout genre de soutien aux Israéliens ou aux Palestiniens. Des solidarités qui ont leur logique religieuse, géopolitique, culturelle ou émotionnelle.
Dénonçant les bombardements sur la bande de Gaza, plusieurs milliers de personnes ont manifesté sur le parvis de l'hôtel de ville de Sarajevo, capitale de la Bosnie. Les habitants de Sarajevo, bombardés et assiégés pendant la guerre de Bosnie dans les années 90, se sentent solidaires de ce que vivent les Palestiniens de Gaza.
À Sarajevo, on sait ce que c'est un siège, c'est clair. Mais d'autres manifestations de solidarité sont plus inattendues.
D'autres types de manifestations étaient organisées devant le bâtiment de la Croix-Rouge à Genève par The Voice for Freedom Coalition, qui regroupe plusieurs centaines de comités d'organisations chrétiennes sionistes.
Chacun a ses raisons de soutenir un camp ou l'autre. Et dans tous les pays, il y a eu des débats. En Grande-Bretagne, un appel au djihad a eu lieu pendant une manifestation il y a 10 jours.
Un chant qui semble avoir cristallisé le débat, djihad, un mot qui signifie des choses différentes selon les personnes, de lutte à guerre sainte. Pour certains membres du gouvernement, c'est franchir la ligne rouge, mais pour la police, ce n'est pas un crime.
Il y a donc eu, dans certains médias de Grande-Bretagne, un débat lexical, étymologique, presque théologique et philosophique autour de ce terme de djihad, avec un ton calme, très courtois. Par rapport à d'autres pays facilement en ébullition, c'était un moment très british. En Belgique, comme d'habitude, c'était pragmatique. Écoutez les chevins de Bruxelles. Mi-octobre, dans sa ville, on a entendu des slogans antisémites dans les cortèges. Alors BFM voulait savoir pourquoi ils ne les interdisaient pas. Philippe Close.
J'ai vu qu'en France, on interdisait les manifestations, mais qu'elles avaient quand même lieu. Donc nous avons une gestion différente de cela sur l'ordre public. Nous pensons qu'il vaut mieux encadrer.
Ça ne vous gêne pas qu'après un attentat comme celui commis sur le sol israélien, on hurle dans votre ville à mort Israël ?
On ne me demande pas d'être gêné ou pas, on me demande de gérer une ville, moi. Moi, dans gérer une ville, je sais que je dois gérer des manifestations.
On est très loin du débat britannique sur la signification profonde du terme djihad. Et puis, il y a eu les interdictions. En France, avant samedi dernier, aucune manifestation de soutien aux Palestiniens n'avait été autorisée à Paris. Ça énervait par exemple Manuel Bompard de la France Insoumise.
À part en France et en Allemagne, je crois, partout en Europe s'expriment des manifestations massives. Partout, les peuples ont la possibilité d'exprimer leur attachement à la paix. Et la France serait le seul endroit, Paris serait la seule capitale mondiale dans laquelle on ne pourrait pas manifester notre soutien au peuple palestinien
victime
de bombardements.
Notez que certaines villes suisses ont également interdit les manifestations. Et comme le dit Manuel Bompard, plusieurs villes allemandes aussi. L'Allemagne craint plus que tout les violences antisémites. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, à Düsseldorf, chacun avait ses petits trucs pour garder le contrôle, les forces de l'ordre comme les manifestants.
Avant que la marche ne parte, la police a confisqué des pancartes qui faisaient référence à l'Holocauste. Et comme les autorités ont appelé à une manifestation calme, certains se sont scotchés la bouche.
La question de la restauration de la nature et de la biodiversité est à nouveau en discussion à Bruxelles, avec des efforts demandés aux agriculteurs qui ne cachent pas leur opposition à des mesures trop contraignantes. L'agriculture, pourtant bouleversée au premier chef par le dérèglement climatique, c'est le cas des rizières en Italie qui annoncent déjà une baisse de 30% de leur production cette année. Dans le nord du pays, à Castello d'Agonia, un centre national de recherche sur le riz tente d'anticiper les changements climatiques. C'est le reportage de Cécile Debarge.
Les plants de riz se sont colorés d'un vert profond. Leurs longues tiges dansent chaque fois que le vent souffle un peu trop fort. Seuls quelques champs de maïs et de blé se fraient un chemin à travers les rizières. Nous sommes dans la région de la Lomellina, le grenier à riz de l'Italie et de l'Europe. 220 000 hectares sont dévolus aux rizières, en Italie dont l'immense majorité en Lombardie et dans le Piémont, dans le nord du pays. Mais cette année, la surface cultivée a perdu entre 7 000 et 8 000 hectares. C'est une première. La faute au ras-le-bol d'agriculteurs qui ont jeté l'éponge après l'épisode de sécheresse qui a frappé la région pendant 14 mois en 2002 et jusqu'en avril 2023. Marco Romani est à la tête du département d'agronomie de l'Ente Nazionale Risi, le centre national de promotion de la riziculture.
L'année 2022 a été très critique, un désastre total. Nous avons relevé au total 26 000 hectares où la production a été quasiment nulle.
En moyenne, il a plu près de moitié moins que la normale. Pour une culture qui a d'énormes besoins en eau, comme le riz, les conséquences ont été dramatiques, explique Luigi Campanini. Il travaille au service d'amélioration génétique et des activités semencières du centre de recherche.
Jamais nous n'avions eu à gérer un problème similaire. On a organisé de nombreuses rencontres, des tables rondes, pour discuter aussi de ce problème que personne ne s'était jamais posé d'un point de vue agronomique, tout simplement parce qu'il n'existait pas.
La question qui se pose désormais est la suivante. Comment cultiver du riz en intégrant la probabilité de périodes de sécheresse? Car le riz pousse dans l'eau. Pour répondre à cette question, Luigi Campanini enfile ses bottes, enjambe les canaux d'irrigation des rizières, raconte les dernières expérimentations en œuvre pour développer des variétés de riz plus résistantes en désignant les champs alentours, puis il s'arrête. À sa gauche, une rizière irriguée. Les plants sont en parfaite santé, immergés dans l'eau. À sa droite, la terre est craquelée, il n'y a pas une goutte d'eau. Le riz a quand même été planté.
Ça, c'est laissé avec de l'eau, comme dans la méthode classique. Ici, c'est laissé sans eau, comme avec la sécheresse de l'an dernier. Que fait un agriculteur en période de sécheresse? Il diminue les engrais pour ne pas provoquer de stress et de déséquilibre nutritionnel. En fonction du temps et des conditions météo, il essaie juste de faire survivre le riz en lui donnant le moins possible.
Contre toute attente, des épis verts sont sortis de ce sol assoiffé, droit comme des piquets.
Nous évaluerons quelle espèce réagit le mieux dans une situation de survie. On espère que ça ne se reproduira plus, mais si ça devait se reproduire, nous avons déjà des données pour savoir comment gérer un autre épisode de sécheresse. L'an dernier, ça a été la débandade. On a vu de tout. Certains cherchaient à tout prix à récupérer de l'eau pour littéralement mettre de l'eau à leur moulin. Tout le monde essayait de survivre, mais on a observé avec les sociétés d'irrigation que l'eau, même quand il n'y en a pas beaucoup, elle peut suffire si elle est bien gérée.
Anche essendo poca, gestita in un certo modo può fare la differenza.
Mais les agronomes le savent, c'est toute la manière de cultiver le riz qui doit être repensée pour s'adapter aux effets du changement climatique et réduire les besoins en eau. Il faut revenir à la méthode traditionnelle qui immerge les rizières dès l'hiver, au moment où l'eau est naturellement présente. Cette technique, qui exige un travail long et difficile, a peu à peu été remplacée par des semis plus tardifs, plus aisés, mais qui nécessitent une irrigation intensive, explique Marco Romani.
Cette culture sèche est née ici au centre de recherche. C'est nous qui l'avons expérimentée en premier. C'est une technique vertueuse qui a permis de cultiver du riz, y compris dans des zones où avant ce n'était pas possible, dans des zones où le riz ne parvenait pas à se développer correctement, car le sol retient moins bien l'eau.
Problème, tous les besoins en eau sont concentrés à la fin du printemps et pendant l'été, exactement au moment où l'eau est moins disponible. 80% du riz de la région est actuellement cultivé avec cette technique. L'objectif est donc de diviser ce chiffre par 2, voire par 4. Le défi est de taille pour les riziculteurs italiens et plus généralement pour les agriculteurs du pays. 41% de l'eau prélevée en Italie est destinée à l'agriculture.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast, sur l'application Pure Radio et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.